patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Patrimoine et spiritualité, nous allons vous parler de Saint-Roch. Pour cela, j'ai avec moi au studio Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour à tous.
Alors pourquoi ce thème, Chantal ?
Eh bien, parce que je m'intéresse aux saints guérisseurs dans le diocèse de Cahors. Et j'ai remarqué que le culte de Saint-Roch était très développé, à en juger une carte de notre département où nous avons près de 36 églises munies d'un autel ou d'une statue dédiée à Saint-Roch.
Très bien. Avant de commencer l'émission, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel support utilisez-vous pour l'émission ?
Alors, j'utilise les travaux de Pierre Dallon, qui fut pendant très longtemps directeur ou président de la Société des études du Lot, aujourd'hui décédé. Il a fait un travail très, très important et je m'en inspire dans les grandes lignes.
Très bien, mais vous pouvez y aller.
Merci. Alors, il s'agit du culte de Saint-Roch dans le diocèse de Cahors. Nous sommes munis pour cela d'une carte, comme je viens de le dire, mais il vous sera très facile, si vous prenez la carte de notre département, de suivre. D'abord, qui est Saint-Roch ? Première question. Eh bien, c'est un saint languedocien qui est né à Montpellier au XIVe siècle. Il est orphelin très tôt et il donne sa fortune aux pauvres et part en pèlerinage à Rome. Au cours de son séjour en Italie, il séjourne un certain temps à Acqua Pendente, dans les Apennins, où, malheureusement pour lui et la population voisine, sévit une épidémie de peste. Il se met alors au service des malades, il en guérit un certain nombre, en traçant simplement sur eux un signe de croix. Puis, revenant de ce pèlerinage en Italie, il ressent, hélas, les symptômes de la maladie sous forme d'un bubon à laine et se retire alors dans une forêt pour y mourir dans la solitude. Puisque pestiférés, lépreux, ils étaient logés à la même enseigne, il fallait qu'ils disparaissent et qu'ils se tiennent à l'écart des villages et des populations. Mais à ce moment-là, la légende dit que jaillit une source pour apaiser sa soif et Dieu lui envoie un ange pour le soigner. Quant à sa nourriture, elle est assurée par un chien du voisinage qui lui apporte régulièrement du pain subtilisé aux cuisines du château voisin. D'ailleurs, vous le savez, Saint-Roch est toujours représenté avec un chien et il montre sa blessure sur la cuisse. Et donc, le chien a souvent dans sa gueule un morceau de pain. Le voilà miraculeusement guéri à son tour. Il regagne sa ville natale, Montpellier, où personne ne le reconnaît. Aussi, la population très méfiante l'emprisonne et le juge comme espion. Il meurt dans sa cellule et, comme dit la légende, entouré d'une lumière surnaturelle. Il n'en faut pas davantage pour que l'on crie au miracle et que l'infortuné pèlerin soit canonisé par la Vox Populi. Donc, pour cette Vox Populi, Saint-Roch est capable de guérir. Guérir tout naturellement de la peste, puisqu'il a subi cette épidémie et il a guéri beaucoup de monde. Donc, ce n'est pourtant qu'au siècle suivant qu'il supplante dans ce rôle de thaumaturge, de thérapeute spécialisé dans la maladie de la peste, il va supplanter Saint-Sébastien, Saint-Blaise et quelques autres après le concile de Ferrare en 1434. Il sera Ces reliques seront transférées à Venise 40 ans plus tard, donc nous entrons dans le XVIe siècle, au moment de la Renaissance, qui brille de son plus grand éclat en Italie. Voilà donc les reliques qui sont abritées à Venise. Mais Montpellier, Venise, Ferrare ne suffisent pas à ce saint, puisqu'il va devenir très populaire dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Et notamment, il sera vénéré en France, particulièrement dans le Midi. Il est largement sollicité pour les épidémies de peste et de choléra. Entre la peste et le choléra, fallait-il choisir ? Ben non, parce qu'on était atteint. Mais la disparition de ces fléaux n'entraîne nullement la disparition du culte voué à Saint Roch, puisque ce culte va être étendu naturellement au bétail, puisque Saint Roch est le guérisseur aussi du bétail, puisqu'il préserve ce bétail des épizooties. Sa fête se célèbre le 16 août, donc le lendemain de la fête de la Vierge, de l'Assomption de la Vierge. Donc, je le disais au départ, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs autels, il y a plusieurs tables, des tableaux qui sont consacrés à Saint Roch dans le diocèse de Cahors. D'ailleurs, il y a vraiment quatre églises qui portent son nom, sous ce vocable, c'est la Burgade, l'église de l'hôpital Saint-Jean, le Roch et Tédirac. Donc, Saint-Roch est aussi, bien sûr, dans d'autres paroisses, et il a dû être, à une certaine époque, considéré comme le patron secondaire de plusieurs de ces paroisses, en jugé par l'importance qui lui est accordée. Je prends un exemple, à côté de Figeac, Fons, il y a un tableau, Carennac, une statue, un reliquaire, la cloche, à Bretenoux, une statue, un vitrail. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais toutes ces confréries sont des confréries de dévotion et non des confréries de métier. C'est très important, car Saint Roch ne patronnait aucune corporation dans le diocèse. Certaines confréries ont pu n'avoir qu'une activité épisodique, les menaces d'épidémie ravivant spontanément les pratiques religieuses. Donc c'est important à retenir. Donc il y a des autels dédiés à Saint Roch, et notamment dans des paroisses urbaines, alors que Saint Roch est adoré dans les campagnes, puisqu'il protège le bétail et les gens. À vrai dire, nous avons trouvé une mention au niveau de ces grandes villes du Lot, une mention à Cahors, une à Figeac, une à Gourdon. Alors si vous permettez, Armand, je vais parler de Cahors et je vais parler de Figeac.
Oui, bien sûr, allez-y.
Donc, à Cahors, c'est l'église Saint-Ursice qui était le siège d'une confrérie citée en 1515 et particulièrement active tout au long du XVIIe siècle. Elle organisait le 16 août, puisque c'est la fête du Saint-Patron, une procession solennelle à laquelle participaient les consuls de la ville. Et ceux-ci faisaient régulièrement don de cierges à cette occasion. L'hôtel Saint-Roch a été rénové en 1854, et le culte, à partir de cette date, s'est éteint progressivement. D'ailleurs, le chanoine Albe signale pourtant une coutume singulière qui avait encore cours à la fin du XIXe siècle. Alors, je vous cite ce qu'a rédigé le chanoine Albe. « Il y a 30 ans, dit-il, il existait un usage assez ridicule que supprima l'abbé Bessières. Alors voilà cet usage. Les gamins de la paroisse de Saint-Ursis portaient en procession le 16 août une statue de Saint-Roch et venaient la jeter trois fois de suite dans la fontaine Saint-Georges. C'est étrange. Mais comme Saint-Roch était le patron invoqué contre la peste, peut-être faut-il voir dans cet usage une réminiscence bien déviée de l'empoisonnement de la fontaine par les lépreux. Donc on ne peut pas se prononcer. Quoi qu'il en soit, nul ne sait ce qu'est devenue la statue qui plongeait trois fois dans la fontaine. On ne trouve d'ailleurs plus de traces de dévotion à Saint-Roch dans les autres paroisses de la ville. Maintenant, nous allons nous préoccuper de Figeac, tout de même.
Tout à fait, bien sûr.
Alors, à Figeac, le culte de Saint-Roch est connu dans les églises paroissiales du Puy, de la Capelette, ainsi que dans l'église du couvent des Capucins. Au Puy, l'autel Saint-Roch existait dès le XVe siècle. À la Capelette, il est mentionné en 1476. Quant aux Capucins, la chapelle Saint-Roch y a été aménagée en 1623 par les consuls, avec fondation d'une messe quotidienne et d'une procession annuelle conformément aux vœux prononcés une trentaine d'années auparavant lors d'une épidémie de peste qui avait épargné la ville de Figeac. Donc les Figeacois furent très reconnaissants pendant toutes ces années. À Cajar, on peut dire, une capa, un chasuble de Saint-Roch, figure dans un inventaire de 1458, alors que l'église n'avait pas de chapelle Saint-Roch. D'ailleurs, je signale que Cajar, à l'entrée de l'église de Cajar, il y a une magnifique statue de Saint-Roch, le représentant, comme je disais à l'instant, avec son chien porteur d'un morceau de pain. Et Saint-Roch dévoile sa jambe pour montrer la blessure due à la peste. D'ailleurs, je dois aussi signaler ce que j'ai remarqué. Les marcheurs sur le chemin de Saint-Jacques ont l'habitude de déposer un caillou au pied de Saint-Roch. Bon, symbole de leurs vœux, symbole de leur prière. Comme quoi Saint-Roch est toujours adoré. Donc, il y a maintenant, évidemment, des pratiques cultuelles qui ont été oubliées. Nous avons dit que Saint-Roch, invoqué d'abord contre la peste et le choléra, est devenu, après la disparition de ces fléaux, protecteur attitré des animaux. Mais, parce que les animaux de trait, promis à l'élevage, c'était capital pour les paysans de notre secteur ou ailleurs. Ou d'ailleurs, on préférait appeler le vétérinaire et on se passait des soins du médecin. Mais voilà que Saint-Roch est aussi invoqué en période de sécheresse. Vous voyez l'été que nous avons eu avec cette canicule qui a abîmé pas mal notre région et qui va priver peut-être les éleveurs de fourrage cet hiver. Eh bien, figurez-vous que Saint-Roch était invoqué pour la pluie. Donc, il est intéressant de rappeler cela parce que Saint-Roch était, paraît-il, très puissant pour faire intervenir la pluie. Bien sûr, le bétail pâtit sévèrement du manque d'eau qui dessèche les prairies, nous l'avons vu cet été.
Merci Chantal, nous poursuivrons ce thème, donc Saint-Roch, dans la prochaine émission Patrimoine et Spiritualité, la semaine prochaine. C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.